ça, c'est le message de la Bible, que par défaut, l'homme est ennemi de Dieu. Qu'entre Dieu et les hommes, il n'y a pas de neutralité possible. Il n'y a pas de no man's land entre l'opposition et l'association. Soit on est avec Dieu, soit on est contre lui. Et ça, c'est pas une idée qui est très populaire aujourd'hui, puisqu'on a tendance à penser que Dieu, si tant est qu'il existe, vu que je me comporte plutôt bien et que j'essaie de faire du bien autour de moi, eh ben, il n'aura rien à me reprocher si je me retrouve devant lui. Alors, il y a plein de manières de contredire cette idée, mais je vais simplement repartir d'un constat que tout le monde fait, que même Nouveau Look pour une nouvelle vie fait. Quelque chose ne tourne pas rond dans ce monde. Ça, on le constate tous. Je ne connais personne qui prétende que tout va bien, que les choses sont telles qu'elles sont. Je ne connais aucun homme politique qui fasse campagne en disant « je ne vais rien faire parce que tout va bien ». La grande question, c'est de savoir pourquoi est-ce que les choses ne vont pas bien. C'est un petit peu comme si on se retrouvait devant un malade. On voit qu'il ne va pas bien. On constate des symptômes. Maintenant, toute la question est de déterminer premièrement la maladie qu'il y a derrière pour pouvoir choisir le bon remède. Si jamais je pense qu'une personne a une grippe et que je lui donne des médicaments contre la grippe alors qu'elle est atteinte d'un cancer, malgré toutes mes bonnes intentions, ça ne servira à rien. Et donc, tous les hommes, toutes les religions, toutes les philosophies, toutes les visions du monde cherchent à répondre à cette question d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce qui ne va pas sur cette terre? Qu'est-ce qui ne tourne pas rond? Pour l'émission dont on a parlé au début, ce qui ne va pas, c'est l'apparence extérieure. Si on règle notre apparence extérieure, tout va aller mieux. Il y a d'autres personnes qui pensent que c'est un problème de répartition des richesses. Si tout le monde avait un niveau de richesse suffisant, les choses iraient mieux. Encore d'autres pensent que c'est un problème d'éducation. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Tout ça, ce sont des visions qui prétendent que le problème est extérieur à l'homme. La Bible, dans son ensemble et ce texte, affirme que le problème est intérieur. Le grand problème, c'est moi, c'est toi, c'est tout le monde. Le grand problème, c'est que l'homme est séparé de Dieu, qu'il est opposé à Dieu, qu'il s'est coupé de cette bonne relation qu'il devrait avoir avec Dieu, et que c'est ce qui fait que les choses ne vont pas bien. Ça, c'est le diagnostic biblique. Et on a cette bonne nouvelle que le remède existe, à savoir qu'il est possible d'être réconcilié avec Dieu. Et ça, c'est quelque chose que je trouve assez magnifique dans ce texte. Aurélien, tu peux passer. J'ai plus la main. C'est qu'il est possible d'être réconcilié avec Dieu. Et c'est pas seulement faire la paix avec un Dieu avec lequel on est en opposition, mais c'est bien plus que ça. C'est passer d'un état de guerre à un état d'union, de relation profonde. Alors, à deux reprises, l'auteur dans ce texte, il parle d'union à Christ. Alors, c'est une formulation qui peut paraître assez mystérieuse. Comment est-ce qu'on peut être uni à Christ? Et qu'est-ce que ça signifie? Alors, pour comprendre, je vous propose simplement de penser à cette phrase bien connue que les mères prononcent quand deux personnes sont unies par les liens du mariage.U'est-ce que ça signifie? Ça signifie que ces deux personnes, elles entrent dans une relation d'alliance l'une avec l'autre, qu'elles sont désormais objectivement dans une relation intime, personnelle, profonde, et que ce n'est pas une relation qui dépend de nos sentiments. On ne peut pas se lever ce matin en disant « Ah tiens, je ne me sens pas marié ce matin ». On est marié, on ne l'est pas. C'est un contrat, c'est objectif, enfin, j'espère. Et c'est la même chose avec Dieu. Il nous propose d'entrer dans cette relation d'alliance qui est réelle et qui est objective et qui est possible. Et cette relation, c'est le point de départ, c'est la solution que Dieu propose, et c'est elle qui va offrir la transformation, une transformation totale. La Bible nous enseigne qu'en réalité, on est défini à partir de notre relation avec Dieu. On est défini soit par le fait qu'on est ennemi de Dieu, soit par le fait qu'on est uni à lui, qu'on est en lien avec lui. Et à partir du moment où on est uni à lui, Paul nous explique qu'on devient quelqu'un de nouveau, qu'on est recréé, que ça change tout, que le fait d'être en lien avec Dieu, ça va changer ce qu'on aime, parce qu'on va l'aimer lui et qu'on va progressivement aimer ce qu'il aime. Ça va changer la manière dont on va se comporter, dont on va gérer notre vie, nos choix, nos finances. Ça va changer ce qu'on dit, ça nous donne une nouvelle famille, des nouveaux frères et des nouvelles sœurs. Et puis, ça nous donne un nouveau travail. Toute personne qui est unie à Christ a un nouveau travail, celui d'ambassadeur pour Dieu. Alors, qu'est-ce qu'un ambassadeur ? C'est une personne dont le travail est de représenter son pays d'envoi. Donc là, ce que Paul est en train d'expliquer, c'est que tout disciple de Jésus a cette charge, cette grâce, cette mission de représenter Dieu, de représenter le royaume de Dieu auprès des autres hommes. On creusera un petit peu cette notion plus tard, mais on peut déjà dire que ce métier d'ambassadeur, c'est pas juste quelque chose qu'on fait pendant des horaires de bureau, c'est un état, c'est une représentation permanente du pays d'envoi. Donc voilà cette première partie, ce premier renseignement fort de ce texte. Le message de la Bible est que l'homme est naturellement ennemi de Dieu. Il n'est pas possible d'être neutre par rapport à Dieu. Mais que, d'une manière qu'on va voir juste après, nous avons cette chance, cette opportunité d'avoir non seulement la paix avec Dieu, mais d'être unis à lui. Et que c'est cela qui peut régler notre problème fondamental, qui peut régler le fait que, en fait, les choses ne vont pas bien en nous, ne vont pas bien sur cette terre, et qu'il faut avoir ce bon diagnostic et aller vers le bon médecin. Je propose qu'on chante ensemble « Sans ta lumière », qui exprime bien cette vérité que, par défaut, on était dans les ténèbres, on était loin de Dieu, loin de sa lumière, et qu'on a eu besoin, qu'on a besoin qu'il vienne nous éclairer, et qu'on a besoin de se mettre dans sa lumière. De faire suffisamment pour être en lien avec Dieu. Et le moyen que Dieu a mis en place, l'aboutissement de ce plan de Dieu pour nous, c'est le sacrifice de Jésus. Aurélien, merci. Et ce texte parle de Jésus, de Dieu en Christ, qui paye à notre place, qui est condamné à notre place. En fait, c'est une sorte d'échange que Dieu nous propose. Nous avons d'un côté le Dieu qu'on croit trinitaire, à savoir Dieu en trois personnes, qui est pur, bon de toute éternité. Donc on a les trois personnes, le Père, le Fils et l'Esprit, qui sont en relation, dans une relation parfaite et joyeuse d'un côté, et qui ne mérite que ça. De l'autre côté, nous avons les hommes, moi, toi, pécheurs, mauvais, rebelles à Dieu, et en conséquence de ça, on a ce qu'on mérite, à savoir, on est séparés de Dieu. Le plan de Dieu, ça consiste à envoyer Dieu le Fils, à ce que Dieu le Fils accepte de venir en tant qu'humain et paye notre condamnation à notre place. Jésus, à la croix, n'a pas seulement souffert une souffrance physique, il a surtout été séparé du reste de la Trinité, de Dieu son Père. Et ça, c'était la chose la plus terrible, bien plus que le fait d'être torturé et d'être crucifié, qui est une mort absolument horrible. Mais plus encore, cette relation d'unité profonde qu'il avait et dont il bénéficiait de toute éternité, il a accepté de l'abandonner temporairement à notre place pour que nous, en échange, nous soyons vus comme justes aux yeux de Dieu et qu'ainsi nous puissions avoir ce que nous ne méritons pas, à savoir que nous puissions avoir, nous, cette relation avec Dieu. Et c'est ça, cet échange que Dieu, que Jésus nous propose. Donc c'est de ça dont il s'agit quand on parle du sacrifice de Jésus. Et j'aimerais juste prendre une seconde pour vous parler un petit peu de cette notion de sacrifice. On va avoir des spoilers. Parce qu'en fait, on est très habitué à cette idée de sacrifice. Même on apprécie ça. Ça fait partie de notre culture. C'est une chose qu'on valorise. Mais notre conception du sacrifice est, je pense, un petit peu limitée par rapport au sacrifice que Jésus a fait. Et quand nous, on parle ou on pense au mot sacrifice, généralement, on s'imagine deux choses. Le premier type de sacrifice, c'est celui, pour ceux qui connaissent, du grand méchant Thanos dans l'avant-dernière Avengers, à votre droite là-haut. Et pour parvenir à ses fins, quelles que soient ses motivations, il va devoir sacrifier ce qu'il a de plus cher, sa fille. Et il le fait, parce que le but qu'il a est plus important que tout, et donc ça le fait souffrir parce qu'il l'aime sincèrement, mais il est prêt à le faire. Problème. Si on pense uniquement à ce type de sacrifice, quand on pense au sacrifice de Jésus, eh bien c'est clairement limité. Déjà parce que sa fille n'était pas tout à fait consentante, ce qui n'est pas le cas de Jésus. Dans le cas de Jésus, c'est un sacrifice volontaire. Il vient et il donne sa vie. Dieu ne traîne pas son fils à la croix. Jésus y va de son plein gré. Le deuxième problème qu'il y a avec ce type de sacrifice, c'est que c'est un sacrifice extérieur. Le grand méchant Thanos sacrifie quelque chose d'extérieur à lui-même. Même si ça le fait souffrir, c'est pas lui qui est sacrifié. Et si Dieu avait sacrifié quelque chose, une de ses créatures, ça nous poserait un gros problème. Parce que s'il a été capable de sacrifier une de ses créatures pour en sauver une autre, alors qu'est-ce qu'il me dit ? Qu'est-ce qui me dit que demain, il ne va pas me sacrifier moi pour, par amour pour une autre, encore une autre de ses créatures ? L'un des points fondamentaux, c'est que Dieu était en Christ, comme nous le dit ce texte. C'est Dieu lui-même qui vient se sacrifier. Il ne va pas sacrifier quelqu'un d'extérieur à lui. C'est lui qui vient et c'est ce qui nous assure qu'on a son amour complet et parfait et qu'il ne va pas, du jour au lendemain, nous demander à notre tour d'être sacrifié pour quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est un premier type de sacrifice qui est limité en termes de comparaison par rapport à celui de Jésus. Le deuxième type de sacrifice, c'est celui auquel on pense couramment, c'est celui du super-héros qui va se sacrifier pour sauver le monde. Et ça existe même dans la réalité. On voit des personnes qui sont prêtes à donner leur vie pour d'autres, ou à risquer leur vie pour d'autres, et quand ça arrive, on les admire, on leur donne la Légion d'honneur pour reconnaître ce qu'ils ont fait. Mais là aussi, il s'agit d'une vision limitée par rapport à ce que Jésus a fait. Pourquoi ? Parce que quand on a un super-héros qui va se sacrifier, il le fait dans le cadre d'un combat dans lequel il y a des innocents qui risquent de mourir. Et quand on pèse les choses, en fait, ce sacrifice est plutôt logique. On a dans la balance des centaines, des milliers, des millions, voire des milliards de vies innocentes. Et la vie du super-héros, ou la vie d'une personne. Et donc ce sacrifice, il vaut le coup. C'est une personne qui se sacrifie pour une ou plusieurs autres, mais dans la balance, c'est logique, c'est cohérent. quand on parle du sacrifice de Jésus, c'est le contraire. Parce que la vie de Jésus n'est même pas comparable, la valeur de la vie de Jésus n'est même pas comparable à la nôtre. Il est le Créateur. Nous sommes les créatures. Nous sommes coupables. Il est innocent. Dans le cas des super-héros, c'est un homme qui se sacrifie pour d'autres hommes, pour des innocents. Ce n'est pas le cas ici. En fait, si on devait faire la comparaison, il faudrait s'imaginer que le super-héros va se sacrifier pour le super-méchant quand celui-ci va se faire tuer à la fin. C'est complètement illogique, contre-intuitif. Mais c'est ça le sacrifice de Jésus. Il va bien au-delà de tous nos référentiels, de tout ce à quoi on s'imagine. C'était donc ça le plan de Dieu pour nous. Puisque nous ne pouvions nous-mêmes nous sauver, puisque nous ne pouvions nous-mêmes mériter être suffisamment pur et obéissant pour être en lien avec lui, il est venu prendre la condamnation à notre place. Et c'est un sacrifice complètement illogique, sans raison. Il n'y a rien en nous qui nous faisait mériter ça. Et on va chanter un autre chant qui contient ces paroles que je trouve magnifiques. Ses mains qui tenaient la terre se livrent au clou de la colère. C'est ce grand Dieu qui était le Dieu créateur, qui avait des mains assez grandes pour façonner et tenir l'univers, qui a accepté, c'est ce qu'on a fêté il n'y a pas très longtemps, de se limiter, de venir en tant qu'homme, de souffrir à notre place et d'être séparé de son Père à notre place pour que nous puissions être unis à Dieu. Alors, tout ce qu'on a vu maintenant, ça explique en fait ce qui va se passer tout à l'heure. Ça explique pourquoi est-ce que Théo va se faire baptiser et ça explique la manière dont ça va se faire. En fait, le baptême, le fait d'être plongé et sorti de l'eau, c'est une illustration, un symbole matériel de cette réalité spirituelle de l'union avec Christ dont parle ce texte. Quand Théo va être plongé dans l'eau, c'est pour signifier, c'est pour symboliser qu'il a été uni à Christ lorsque Christ est mort, lorsque Christ est mort pour ses péchés, et que donc désormais, aux yeux de Dieu, Théo est juste. Ça, c'est l'union à Christ dans sa mort, au moment où il va plonger dans l'eau. Et ensuite, il va ressortir de l'eau. Et ça, c'est pour symboliser, signifier l'union à Christ dans la résurrection de Christ. Et ce fait que Théo est désormais vivant, plus vivant que jamais, uni à Christ, et qu'il est une nouvelle créature. Alors ça ne va pas se passer au moment du baptême, c'est un symbole pour signifier ce qui s'est passé dans sa vie et pour signifier cette réalité spirituelle. Donc ça, c'était l'application pour le baptême de Théo. Maintenant, ce texte a aussi au moins deux autres choses à nous apprendre. La première chose, pour ceux qui sont déjà unis à Christ, c'est ce challenge d'être ambassadeur pour Christ, d'être ambassadeur au nom de Christ. Et c'est vraiment le but de Paul dans ce texte, c'est d'exhorter ses destinataires, les chrétiens de l'église de Corinthe, à prendre au sérieux ce ministère de la réconciliation. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est un combat de tous les jours. Je suis le premier à trouver ça difficile d'être un ambassadeur, parce que ça implique toute notre vie, 24 heures sur 24. C'est pas juste le dimanche. Cette notion d'être un chrétien du dimanche, d'être chrétien uniquement quand on vient à l'église une fois par semaine, ça n'a absolument pas de sens du point de vue de la Bible. On est une nouvelle créature et on l'est tout le temps et dans tous les domaines de notre vie. On on doit être transformé complètement. Ça, ça doit être un témoignage. Mais ce texte nous parle aussi de ce ministère de la parole, de la réconciliation. Il nous parle d'inviter les gens à être réconciliés avec Dieu. Et donc, il s'agit aussi d'un témoignage qui est verbal. Et donc, ce texte nous exhorte à parler de cette réconciliation possible avec Dieu à nos familles, à nos amis, à nos collègues, ou à toute personne. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile. Et sur la manière dont nous devons le faire, je ne sais pas, c'est à chacun de creuser ce sujet personnellement, avec Dieu, avec des frères, dans la prière, avec la Bible, avec l'aide du Saint-Esprit, de savoir comment partager cette bonne nouvelle avec nos collègues, nos amis, notre famille. Mais c'est quelque chose que nous devons prendre au sérieux. Nous avons bénéficié de cette grâce, de cette réconciliation. Et maintenant, à nous de l'annoncer aux autres. Je n'ai aucune idée de pourquoi Dieu nous choisit pour être ses ambassadeurs, alors qu'il ferait bien mieux le boulot lui-même, directement, tout seul, que par nous. Mais c'est ce qu'il choisit de faire, et c'est à nous de répondre à cette invitation. La deuxième implication, c'est pour ceux qui ne sont pas encore unis avec Christ, et qui sont, d'après ce texte, en conflit avec Dieu, qui sont, d'après ce texte, ennemis de Dieu. Il y a cette invitation. Soyez réconciliés avec Dieu. Encore une fois, il ne s'agit pas de faire quoi que ce soit, mais d'accepter ce que Dieu a fait en Jésus. D'accepter ce constat que le problème, ce qui ne va pas, c'est pas quelque chose d'extérieur. C'est bien nous le problème. Que, en fait, on essaie de vivre en autonomie de Dieu et que ça, c'est ce qui ne va pas, c'est précisément ce qui ne va pas, c'est précisément ce qui pose problème et que c'est de ça dont il faut qu'on se détourne. Nous devons être dépendants de Dieu, devenir dépendants de lui. Et j'aimerais vous laisser avec cette image de cet homme, Hiro Onoda, qui était un des soldats japonais qui a combattu pendant la Seconde Guerre mondiale. Et lui et quelques-uns de ses camarades ont continué à combattre après la capitulation japonaise. Donc le Japon capitule en août-septembre 1945. Et pendant un certain temps, certains soldats vont continuer à combattre. Certains soldats japonais. Dans un premier temps parce qu'ils ne sont pas au courant que la guerre est finie. Mais après, l'information passe, les supérieurs passent l'information aux soldats qui étaient dans les îles que la guerre est finie. Des tracts sont largués par avion pour annoncer cette nouvelle que la guerre est finie. Mais certains soldats vont continuer à combattre. Cet homme va continuer à combattre jusqu'en 1974. Pendant 19 ans, il va continuer une guerre qui était finie. Et l'invitation de ce texte ce matin, c'est de ne pas faire comme ces soldats, de ne pas continuer une guerre qui peut être terminée, et de profiter de cette paix, et même plus que cette paix, de cette union, réconciliation, de cette relation qui est possible d'avoir avec le Dieu créateur, qui est absolument la chose la plus merveilleuse qui puisse nous arriver. Chaque chrétien ici pourra en témoigner. Un dernier chant, Tu peux naître de nouveau, et qui nous permet, à nous qui sommes déjà disciples de Jésus, de porter cette parole de la réconciliation, et que les paroles de ce chant puissent nous accompagner cette semaine, et qu'on ait envie de les répéter, et de les porter à ceux qui nous entourent. Et pour ceux qui ne sont pas disciples de Jésus, écoutez simplement ces paroles, et réfléchissez à cette invitation et à cette possibilité qu'il y a.